Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Bonjour, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau carnet de région. On se retrouve comme chaque semaine pour notre magazine d'actualité proposé par des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Un carnet dont Radio Lodève assure la rédaction en ce mois de janvier. Au sommaire, l'usine Jalat à Saint-Hippolyte-du-Fort menacée d'un plan de licenciement, mais les ouvriers restent mobilisés. Après la réfection du cours Jean Jaurès dans l'Hérault, la situation est tendue sur le marché hebdomadaire de Pézenas où nous irons. On entendra le nouveau président de l'association des maires de l'Hérault, Christian Billac, a succédé à Kléber Mesquida. Nous parlerons de spectacles en recommandé, une manifestation nationale accueillie la semaine prochaine en Lozère. Direction Carcassonne où se déroule ce samedi la fête de la Saint-Vincent organisée par la ville et le comité local Prosper Montagnier. Enfin, nous irons à Barjac dans le Gard où les 11e rencontres hivernales sur la thématique du cinéma coréen auront lieu du 25 au 27 janvier prochain. Jalat, entreprise emblématique de Saint-Hippolyte-du-Fort, est de nouveau menacée par un plan de licenciement. Leader mondial dans le secteur des chaussures de sécurité, le groupe continue donc petit à petit sa descente aux enfers, puisque c'est le quatrième plan social que va connaître l'entreprise depuis 2007. Cette fois, 57 emplois sont menacés sur les 133 que compte encore le site de Saint-Hippolyte-du-Fort. Si ces licenciements ont lieu, c'est l'existence même de l'entreprise dans les Cévennes qui est remise en question. Et ça, les ouvriers ne veulent pas l'entendre. Ce lundi, ils se sont rassemblés devant la sous-préfecture, au Vigan, pour rencontrer le sous-préfet et ainsi mettre la pression sur les négociations en cours au ministère du redressement productif à Paris. Christian Dubois, délégué CGT chez Jalat, au micro de Rémi Goujon pour Radio Escapade.
On est venu le solliciter parce que actuellement il y a une réunion de nos actionnaires, nos dirigeants et également le redressement productif, le ministre de l'Industrie, concernant le devenir de Jalat. Donc pour nous, il est important de faire passer le message puisque la pérennité du site de Saint-Hippolyte-du-Fort, pour nous, passe par des volumes de 650 000 paires qui avaient été décidés en 2007 et qui doivent être maintenus. Ça a été étayé par nos experts et on voit très bien que le projet de PSE présenté par la direction sur des volumes de 500 000 paires non seulement n'est pas viable, n'est actuellement quoi, est très difficile à mettre en place parce qu'on ne garde pas les effectifs correspondants, mais condamne à court terme l'entreprise Jalat parce que ses objectifs sont très 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 ambitieux pour revenir à des résultats, on va dire, financiers très ambitieux qu'on ne pourra pas réaliser et malheureusement qui serviront la direction pour fermer définitivement l'entreprise. Bon, je pense que s'ils avaient pu le fermer en 2007, ils l'auraient fait, mais bon, sachant que quand même la marque Jalat est très connue et que le chiffre d'affaires est réalisé à plus de 50% sur le territoire français, moi je pense que bon, commercialement ils font un peu attention, mais il est évident qu'aujourd'hui la volonté de Jalat, quoi, enfin des dirigeants de Jalat et des actionnaires, malheureusement, c'est de fermer le site de Saint-Hippolyte-du-Fort. Parce que quand on voit s'ils avaient respecté les engagements pris en 2007, aujourd'hui on n'en serait pas là, quoi, je veux dire. On aurait des résultats, une société qui serait bien positionnée financièrement. Bon, on ne fait pas partie des négociations parce que les actionnaires, visiblement, n'ont pas souhaité qu'on y soit, mais on le suit de très près, comme qu'il en soit, et on a envoyé des courriers disant que voilà, les salariés souhaitaient qu'on négocie, entre autres, sur les propositions de notre expert, quoi, 650 000 paires, et qu'on serait très attentif à ce qui se déciderait là-haut en haut lieu.
Dans l'Hérault, situation tendue sur le marché hebdomadaire du samedi à Pézenas entre commerçants ambulants qui n'ont pas déballé samedi dernier et élus de la mairie, sujet de discorde, d'un arrêté municipal qui interdit aux commerçants désormais de garer leurs camions ou fourgonnettes pendant le marché juste à côté de leur étal sur un cours Jean Jaurès, artère principale de la ville, qui a été refait à neuf après 10 mois de travaux. Les commerçants ambulants ne comprennent pas cette situation.
Depuis 8 mois, donc, on avait été délocalisé, et là, on remonte maintenant sur le cours Jean Jaurès, mais ils veulent mettre aucun camion, en fait, sur le cours Jean Jaurès des deux côtés. Donc, à l'heure actuelle, nos camions ne sont pas des moyens de locomotion, ce sont des outils de travail, qu'à l'heure actuelle, les personnes sont plus de 50, 60 ans, ils ne peuvent pas s'amuser à laisser les marchandises seules, aller poser le camion et revenir pour pouvoir travailler correctement. Donc, là, à l'heure actuelle, on a essayé de négocier avec la mairie n'a pas voulu entendre que qu'on revienne avec nos camions. Donc on essaye de justement crier pour dire que nous voulons travailler correctement avec nos outils de travail, pas avec des moyens de locomotion, pour pouvoir travailler correctement depuis des générations de commerçants qui sont implantés sur la commune de Pézenas.
On écoute la réponse de la mairie par la voix d'Anzio Revalor, conseiller municipal délégué au centre-ville de Pézenas.
Donc la mairie a requalifié le cours Jean Jaurès, c'est-à-dire qu'on a refait les travaux sur le cours Jean Jaurès qui ne s'était pas fait depuis 125 ans. On a voulu un espace partagé avec une priorité aux piétons. Donc pour nous, on veut le maximum d'espace pour circuler. Et c'est vrai qu'on a envie d'avoir un bel espace et on, les camions à la fois... en termes d'esthétique, ça posait un petit problème, mais surtout par rapport aux commerçants sédentaires qui très souvent étaient masqués. Donc ce qu'on veut, c'est que tout le monde travaille, à la fois les commerçants non sédentaires et les commerçants sédentaires.
Et malgré des discussions, parfois tendues, c'était le cas samedi dernier, aucun accord n'a été trouvé entre commerçants ambulants et mairie de Pézenas, un sujet d'Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
En fin d'année dernière, le député de la 5e circonscription de l'Hérault, Kléber Mesquida, touché par le cumul des mandats, laissait la présidence de l'association des maires de l'Hérault. C'est Christian Billac, élu maire en 1983 de la petite commune de Perret dans le Clermontais, qui lui succède. Christian Billac, qui vient de prendre ses fonctions. Il était jusque-là président des maires ruraux de l'Hérault. On l'écoute.
Je me suis tellement investi dans la défense de la ruralité que ce n'est pas une page que je vais tourner sans quelque émotion. Pour moi, élu maire en 1983, le président de l'association des maires de l'Hérault, Raoul Bayou, questeur à l'Assemblée nationale, député depuis la libération dans la 5e circonscription de l'Hérault, un personnage, conseiller général, ensuite Bernard Néral, vice-président du conseil général, député de l'Hérault, et ensuite Kléber Mesquida, premier vice-président du Conseil Général, député de l'Hérault. Et donc, je me demandais comment un simple maire rural pouvait présider une association aussi emblématique que l'Association des maires de l'Hérault. Et finalement, eh bien, les collègues ont pensé que j'avais la volonté, la foi, la capacité et la force de travail pour faire ce job. Et ma foi, c'est un honneur pour moi, mais aussi une responsabilité supplémentaire.
Voilà, et le rôle de l'association et de son président, c'est quoi? C'est de faire remonter des problématiques au plus haut niveau, c'est essayer de solutionner les problèmes du quotidien des uns et des autres?
Oui, donc il y a deux niveaux. Association départementale, donc, c'est faciliter les relations avec les autorités locales, qu'il s'agisse de la préfecture, qu'il s'agisse des services, de la direction des services financiers de l'État, qu'il s'agisse de l'ingénierie de l'État qui est mise à mal actuellement. Donc ça, c'est essayer de jouer l'interface entre les maires et les services déconcentrés de l'État. Et puis, association départementale, mais également membre de l'Association des maires de France. Et donc, à ce titre, et en tant que président départemental, je serai donc au comité directeur de l'AMF, saisir directement, alors au plus haut niveau de l'État, les administrations d'État et les ministres, lorsqu'il y a des problèmes qui se posent aux communes du département.
Sachant que les problèmes ils peuvent être différents selon qu'on parle d'une grande ville ou d'une commune rurale, forcément.
Voilà, donc là c'est évident. Pendant 15 ans, j'ai eu un discours qui était absolument tourné vers les communes rurales. Aujourd'hui, en ma qualité de président des maires du département de l'Hérault, j'ai comme vice-président, parce que c'est statutaire le statut de l'Association des maires de l'Hérault, madame le maire de Montpellier, monsieur le maire de Béziers et monsieur le maire de Sète. Et puis toutes les communes intermédiaires entre les grandes villes et les communes moyennes. Et donc, je dois avoir un discours fédérateur et un discours qui tienne compte des problématiques de l'ensemble des communes, quelle que soit leur taille démographique.
Christian Billac, le maire de la petite commune de Perret dans le Clermontais, qui vient de prendre la présidence de l'Association des maires de l'Hérault, un sujet réalisé par Radio Lodève. On prend la direction de la Lozère, où toute la semaine prochaine se déroule la manifestation nationale spectacle en recommandé. Alors de quoi s'agit-il? Réponse de Ludovic Terol de 48 FM.
Il s'agit de la 17e édition de spectacle en recommandé, chaque année et dans un lieu différent. La manifestation confronte artistes et compagnies de spectacles jeunes publics et diffuseurs de ces spectacles. Portée par la Ligue de l'enseignement de la Lozère, ce sont environ 150 personnes qui arrivent ce lundi dans le département pour participer au spectacle en recommandé, un festival qui porte l'éducation au jeune public en ligne de mire. Écoutez Alain Pantel, le président de la Fédération des œuvres laïques de la Lozère.
Former les gens un petit peu à réfléchir tout petit sur les spectacles et ne pas que les consommer, c'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça que des fois il y a des préparations au spectacle, il y a des ateliers après spectacle. Ça forme donc, je dirais, la culture des gens qui, plus tard, peuvent réinvestir et que ces gens, on peut les retrouver plus tard. Et plus tard, finalement, parmi nous, en tant qu'adultes, ils sont là, présents, et c'est quelque chose de très important. C'est la formation, je dirais, de la culture au niveau de l'enfant.
C'est dans cette même esprit d'éducation au public de demain que la ville de Mende s'est associée au projet. Jean-François Berenguel, adjoint en charge de la culture à la mairie de Mende.
C'est une action sur le spectacle vivant, mais nous en avons plein d'autres. Nous avons les écoles au musée, nous avons des actions en termes d'art plastique. Voilà, nous avons une foultitude d'actions en direction des écoles, parce que pour nous, effectivement, éduquer ce public sensible, c'est aussi éduquer ce que va être le public de demain sur la ville.
Et de nombreux partenariats ont été mis en place avec divers organismes pour la bonne réussite de la manifestation. Les Scènes Croisées de Lozère se sont associées dès le départ au projet pour cette éducation sensible. Écoutez Nicolas Blanc, le directeur des Scènes Croisées de la Lozère.
Je crois que dans l'éducation d'un enfant, il y a deux choses. Il y a les savoirs fondamentaux, voilà, c'est le rôle de l'école. Et il y a ce qu'on appelle l'éducation sensible. L'éducation sensible, c'est le rôle des artistes. C'est le rôle de l'art en général. Donc il faut cette mise en relation. C'est, voilà, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc voilà, il y a tout un tas de manières de rencontrer des artistes, de fréquenter des œuvres, des musées, etc. dans la famille. Mais c'est aussi le rôle de l'école et c'est aussi le rôle d'un lieu comme le nôtre qui a aussi cette mission-là de mettre en contact des enfants avec des œuvres d'art vivantes qui interpellent forcément puisque c'est des artistes contemporains qui écrivent aujourd'hui. Dans le siècle dans lequel on vit, à l'heure où on vit. Donc ils posent forcément des questions qui ont une résonance dans l'actualité et qui vont faire réfléchir les enfants.
Et les étudiants à l'UUP de Mende viennent apporter leur pierre à l'édifice. Émilie Verdier en licence TAFE.
Donc en fait, on s'est divisé en plusieurs équipes. Donc il y a des personnes qui s'occupent de la décoration. Nous, donc, on est plus sur la communication, d'autres personnes sur la logistique et sur les soirées after. Donc on s'occupe d'organiser un petit peu tout ça, en fait, pour la semaine. Et la semaine aussi, on va participer donc à l'accueil des professionnels, en fait.
À noter que 48FM est également partenaire du projet et va proposer tous les soirs de 18h10 à 19h Radio Recommandée, une émission en public pour évoquer l'éducation à la jeunesse avec les acteurs présents. Vous pourrez retrouver l'émission en direct sur 48fm.org. Direction Carcassonne maintenant dans ce carnet de région où la fête de la Saint-Vincent se déroule aujourd'hui, portée par la ville et le comité local Prosper Montagnier, un sujet d'Éric Boyer pour RCF Pays d'Aude.
La fête du patron des vignerons, Saint-Vincent, célébrée pour la 4e année consécutive à Carcassonne, samedi. Les explications tout de suite d'Alphonse Caravaca, membre du club Prosper Montagnier International et président du comité local.
À la demande de Monique Joseph Artozoul et certainement de la municipalité en général, ils ont souhaité remettre en place la Saint-Vincent. C'est une période où il n'y a pas d'activité majeure, si ce n'est la truffe à Moussoulens et dans le Minervois. Donc créer cet événement pour dynamiser à la fois le centre-ville de Carcassonne et par ce vecteur, je dirais, bachique, puisque nous sommes sur un terroir qui est la viticulture, nous baignons dans la viticulture. Donc ils ont senti eux aussi le besoin d'être accompagnés par les acteurs de bouche et ceux qui s'en occupent.
Le bilan de l'an dernier, il est plutôt bon. Vous aviez déjà participé ?
Oui, absolument. Donc c'est la 4e édition. Hein, il y a eu un trou de 2-3 ans. Ben, il a fallu reprendre des repères et tout ça. Donc l'an passé, bien sûr, ça a été, je dirais, un succès. On n'est pas là pour que ce soit un succès phénoménal.
C'était attendu quelque part, ça répond à un besoin.
Ça répond à un besoin, effectivement. Je pense que globalement, en plus c'est un samedi, on fait ça un samedi, dans ces jours de marché, ben, ça permet à toutes les personnes qui viennent de l'extérieur au centre-ville de Carcassonne, ben, de voir que c'est animé, qu'il y a des gens qui existent. Et puis, bon, je dirais, animer les acteurs de bouche c'est quand même quelque chose de primordial, parce que, je dirais, on mange, on boit tous les jours. Et comme le club et les compagnons de Prosper Montagnier cultivons le bien boire, le bien manger, dans le bien vivre, hein, en respectant la tradition, et surtout respecter l'adage de notre maître à penser, Prosper Montagnier, on ne fait du bon qu'avec du très bon.
Et dans le cadre de cette fête Saint-Vincent à Carcassonne samedi, défilé des confréries bachiques dès 11h devant le musée des Beaux-Arts, bénédiction du vin à l'église Saint-Vincent par le vicaire général Luc Caraguel, repas saisonnier ensuite suivi d'animations théâtrales et musicales.
On termine ce carnet de région par les 11e rencontres hivernales de Barjac dans le Gard. Elles auront lieu du 25 au 27 janvier au cinéma Le Regain, avec un thème cette année, le cinéma coréen. On retrouve le réalisateur Tian Wang au micro d'Olivier Ladet pour Radio 16. Bonjour monsieur Wang.
Bonjour.
Qui êtes-vous ?
Alors je suis réalisateur. J'ai réalisé des documentaires, dont un sur ma grand-mère ayant fui le grand tremblement de terre de Yokohama en 1923. Film qui était produit par Arte et qui était nominé au César du meilleur court-métrage de cette année-là. J'en ai fait d'autres documentaires moins connus, qui ont été sélectionnés aussi. Et à côté de ça, je donne aussi des cours d'audiovisuel dans des collèges, dans des lycées, dans des écoles, dans des ateliers d'adultes handicapés ou d'adolescents handicapés. J'anime aussi des séances de débat pour les films du patrimoine dans divers cinémas de la région. Alors l'histoire de Barjac a commencé il y a 5 ans en arrière. Il se trouvait que les rencontres hivernales ont déjà commencé depuis quelques années. Hein. Ils ont fait l'Afrique, ils ont fait le cinéma latino-américain. Et il se trouve que il y a 5 ans en arrière, ils ont fait dont le thème c'était le cinéma chinois. Et c'est à ce titre-là, comme je suis d'origine chinoise, ils m'ont demandé de venir présenter des films. Le fait de présenter des films, de parler un petit peu avant les projections, ça apporte quelque chose de plus. Et depuis 4 ans, c'est moi qui le fais aussi.
Ces 11e rencontres hivernales, cette année, vont tourner autour du cinéma coréen. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu sur ce qu'est aujourd'hui le cinéma coréen ?
La Corée est une nation qui est récente, hein, en 48, était longtemps, quasiment plus d'un siècle, occupée par des Japonais. Donc, tout de suite après la guerre, a démarré aussi en Corée, malheureusement, une guerre civile qui ont abouti à la séparation du pays en deux nations. Un pays, le nord, le communisme, et le sud, un pays qui est libéral. Et ce, depuis 1948. Résultat, il y a deux cinémas, donc, et deux cinémas qui sont peu connus, parce que la guerre de Corée avait, pendant longtemps, muselé le pays, fermé le pays au reste du monde. Or, depuis une dizaine d'années, l'économie de la Corée du Sud s'est développée énormément, c'est un des dragons de l'Asie, et le cinéma a profité aussi de ce développement économique et est devenu un cinéma important, puisque plusieurs réalisateurs ont été remarqués, voire primés dans les plus grands festivals comme Cannes ou Berlin ou Venise. Donc il y a un cinéma sud-coréen qui depuis une quinzaine d'années est très remarquable, mais peu connu. Et de l'autre côté, au nord, il y a un cinéma de propagande, puisque c'est une dictature. Mais à l'intérieur, il y avait quand même quelques films qui sont adaptés des œuvres littéraires ou des opéras révolutionnaires du pays, qui sont les films qui sont plus que intéressants, puisque ce sont des films émouvants. Alors, on connaît que 2 films nord-coréens en Occident, La Petite Bouquetière, qui date de 72, et nous avons la chance donc de le présenter, ce film nord-coréen. Donc ça, c'est le cinéma nord-coréen et le cinéma sud-coréen. Vous avez évidemment une pléthore de cinéastes, à commencer par le vétéran qui est Im Kun-taek, qui a fait des films comme Ivre de femme et de peinture sur un peintre. Et à côté, vous avez aussi des cinéastes comme Kim Ki-duk, qui est un grand cinéaste par l'originalité et surtout par ses recherches et formelles et esthétiques. Et puis vous avez aussi le ministre de la Culture, Lee Chang-dong, qui avait en quelques années donné quelques films magnifiques comme Oasis ou tout récemment Poésie. Donc quelques films qui vous donnent envie de venir à Barjac. C'est en plus, c'est très convivial comme ambiance.
Tous ces films qui sont présentés sont en version originale, sous-titrée, j'imagine.
Bien sûr. Venez, verrez, c'est très sympathique.
Merci beaucoup, Monsieur Wang.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Les 11e rencontres hivernales de Barjac sur la thématique du cinéma coréen, c'est du 25 au 27 janvier.
Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Voilà qui clôture ce nouveau carnet de région. L'actualité en langue de Croussillon, vue par des radios associatives non commerciales, un magazine dont Radio Lodève assure la rédaction en chef en ce mois de janvier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. À très bientôt, au revoir.